Messieurs et dames, c'est vendredi. Printemps et plaisir pour coûter des mots quatre paroles de 20 à 21h30. Des mots quatre paroles, bonne ou la voix sur le 88.4. Coûter et entendre pour plaisir en nous là.
Ou pas même Jean Bello, nous changer l'esprit du fond. Pareil les autres finis joignent. Avec Aïmou pas ça vous sauver. Alors doit que profiter, compagnie plus bon dominé. Ou décrété ou rivé, parce qu'il n'y a pas de fonction limitée. Origine ou massacré, quand t'as dit ou pas même parler.
Nous caillons, d'après nous, le gardien ou assis à vrai. Mais nous n'avons pas de morceau, pas nous qui pas même ça pour l'aider. Nous caillons, d'après nous, le gardien ou assis à vrai.
Bonsoir auditrices et auditeurs de Radio Galère ainsi que sur le 88.4 FM, sans oublier nos podcasts et notre fenêtre ouverte sur le monde www.radiogalère.org. L'équipe d'animateurs de l'émission caribéenne Demo 4 Paroles vous retrouve le second vendredi du mois de 20h à 21h30. Nous remercions notre fidèle ami et technicien Sidi de la radio pour sa disponibilité. Nous allons commencer par donner la parole à nos invités, que vous avez déjà pu entendre lors de notre toute première émission de reprise. Ils vont se présenter à nouveau avant que les animateurs ne prennent le relais.
Bonsoir Jonas.
Bonsoir Jean-Marc, bonsoir à toute l'équipe. Nous sommes bien nombreux cet après-midi pour cette reprise, la nouvelle version de Demo 4 Paroles. Et encore une fois, c'est avec beaucoup de plaisir que je participe à cette émission.
Daniel, bonsoir.
Et bonsoir, bon, c'est Daniel, librairie Transit et aussi guide du Marseille colonial. Voilà, donc j'étais à la dernière émission et c'est avec plaisir que je vous retrouve.
Merci Jonas, merci Daniel. Nous sommes aussi accompagnés de toute l'équipe, Guy, Jeannot, Georgis, Jean-Marc et moi-même, Gary. Vous l'aurez remarqué, seuls des hommes sont présents dans le studio, mais ce n'est pas le reflet de notre collectif qui œuvre activement pour Haïti et pour faire entendre les voix trop souvent réduites au silence. D'ailleurs, nous avons noté que France Inter, hier matin, a évoqué, même brièvement, cette question cruciale du racket imposé par la France à Haïti, un pays au passé aussi héroïque que tragique. Une prise de parole encore timide, mais qui montre que nos préoccupations commencent à percer le silence médiatique. Ce soir, en ce 11 avril, nous, héritiers et dépositaires de la mémoire de l'esclavage et de la traite négrière, avons le devoir de tirer toutes les leçons de cet héritage. Il nous revient de réfléchir aux implications profondes, notamment du décret d'abolition de l'esclavage promulgué par Victor Schœlcher le 27 avril 1848. Si ce texte a officiellement mis fin à l'esclavage dans les colonies françaises, il n'a pas pour autant aboli les logiques de domination ni effacé les séquelles socio-économiques et culturelles qu'elles ont laissées derrière elles. Des logiques de domination auxquelles Haïti se retrouve aujourd'hui plus que jamais confronté.
Musique, ah musique, alors Karimi, bing bing.
FBI, DEA.
Mes amis,
oh. FBI, DEA.
Mes amis, ça fait des hommes pas ouais. Pays moi changer couleur. Ça fait des hommes qui t'aiment. Figuili ma que misère. Nous plutôt fermer des jeunes. Fais semblant ça va changer. Nous plutôt fermer des jeunes. Des petites pas nous pas tourner, mes amis. Haïti, moi. Oh.
Sans vaseline.
Dis-moi qui s'en voit le faire. Fais semble ça va changer. Nous pito ferme déjà. Dis petite pas nous pas tout neuf les amis. Haïti ouais. Oh oh. Sauve Céline. Oh mes amis, mes amis. Oh oh. Caribé. Nous avons nos Stéphanie Poli pas même dans CIA.
Sensible à la gâchette.
Sensible à la gâchette d'eau.
Rebonsoir sur les ondes de Radio Galère sur le 88.4 Demo 4 Powell, de retour une fois par mois, tous les deuxièmes vendredis du mois de 20h à 21h30. Nous remercions notamment Maurice de l'émission du samedi matin de relayer nos actions dans le cadre de son émission Ponche Rétro Caraïbes et lui disons Please Fos Ek Messi. Comme vous le savez sans doute, la France a connu deux abolitions de l'esclavage, en 1794 et en 1848.
La première question adressée étant à Daniel Cajonas, c'est à savoir s'il y a un lien de filiation qui existerait entre les abolitions de 1794 et celles de 1848, ou s'agit-il de deux événements qui sont fondamentalement différents, distincts. Alors, qui peut venir et souhaite répondre? Alors, vous vous regardez comme Dieu chez une faillite.
On va laisser à Daniel.
Ce n'est pas d'école hein, que nous essayons, mais nous essayons ce soir d'avoir une démarche pédagogique pour essayer de comprendre et que certains auditeurs et auditrices puissent bien comprendre un peu quels sont les enjeux aujourd'hui.
Oui, avant d'aborder la question des rapports entre les deux, c'est d'abord, il faut quand même mettre l'accent sur le fait que la première abolition a été le résultat d'une bataille très importante qui a été menée par les esclaves eux-mêmes. Et c'est ça qui déjà est un caractère particulier et qui a abouti aussi tout au long de leur bataille à instaurer la première République noire. Donc là, on est dans des événements assez inédits et qui vont effectivement être portés la deuxième abolition. Mais cet événement quand même assez unique dans l'histoire, c'est-à-dire que les esclaves eux-mêmes se sont libérés par leur propre force et qu'ils ont instauré la première fois une république donc autonome. Ça, c'est la leçon de 1794. Alors, si on revient juste un tout petit peu en arrière, tout ça vient de la révolte des esclaves donc, qui a eu lieu quelques années auparavant, c'est-à-dire dès 1791. Après, la question qui peut se poser, c'est y a-t-il un rapport entre la lutte des esclaves en 1791 et la révolution dite de 1789 qui avait instauré, proclamé aux yeux du monde la déclaration donc, des droits de l'homme. Et cette déclaration des droits de l'homme, effectivement, c'était une déclaration de droits de l'homme occidentale, mais elle ne touchait absolument pas le problème des colonies. Donc, effectivement, il y avait une zone qui était complètement occultée, qui était justement l'esclavage. Bien que, justement, c'est là où on va retrouver aussi le lien avec Schleicher. Il y avait des citoyens républicains en France qui avaient mis en place une société de discussion et de débat qui s'appelait la Société des Amis des Noirs. Et notamment, on retiendra certains personnages comme Grégoire, l'abbé Grégoire, qui lui a été resté assez fidèle donc, à ce message, qui voulait donc abolir l'esclavage. Mais il ne fallait pas aller trop vite. Pour eux, il fallait d'abord s'occuper de la traite, ensuite s'occuper de l'esclavage, et ensuite il fallait civiliser les Noirs. Voilà. Donc il y avait déjà le débat qui avait déjà lieu donc, au moment de la révolution de 1789 était entaché quand même d'une zone d'ombre qui était est-ce que les Noirs seront les acteurs de leur propre libération, et c'était pas ça qui était en cause, et on reverra ça en 48.
Oui, c'est parce qu'en civilisation on entend l'évangélisation, c'est cela pour l'abbé Grégoire. Est-ce une question d'évangélisation quand on parle de civilisation dans l'idée et l'esprit de l'abbé Grégoire?
Non, je crois pas. J'ai pas compris ça en tout cas dans ce que j'ai lu sur l'abbé Grégoire et les textes de l'abbé Grégoire lui-même. Je crois qu'il a été fidèle à l'esprit de la République quand même. Même s'il pensait que la Révolution avait un côté humaniste qui manquait un petit peu à la Révolution. Mais c'était vraiment l'esprit de tenir compte d'une égalité, mais il fallait qu'il y ait un chemin pour cette égalité. C'était ça, en gros, l'abbé Grégoire. C'était pas lié, c'était lié profondément pour lui à sa foi religieuse, mais c'était pas le moteur essentiel.
Parce que lorsque je pose la question, c'est en lien aussi avec l'esprit du Code Noir aussi, hein, concernant les esclaves. Est-ce qu'effectivement, parce qu'il appartient quasiment à cette même génération, est-ce qu'il n'était pas imprégné de cette idée que il n'y avait pas d'âme, mais ils pouvaient être, les esclaves n'avaient pas d'âme, mais ils pouvaient être baptisés, etc., reconnus comme tels.
Non, il était complètement en conflit quand même, Grégoire, avec cette conception des choses. Hein. Il n'était pas sur cette idée-là. C'est vrai que l'Église, je pense au père là-bas, hein, par exemple,
oui,
là, du coup, c'est pas Haïti, mais le père là-bas, lui, avait cette conception des choses. Hein. C'est-à-dire tout ce qui a mis en place l'esclavage était basé là-dessus, hein, sur le fait que une fois qu'il y avait l'esclavage, plutôt, il faut voir les choses à l'envers. Hein. C'est-à-dire l'esclavage a eu lieu pour les considérations donc économiques. Et une opportunité hein, qui était que les esclaves s'existaient sur le marché, donc ça a été industrialisé, c'est-à-dire avec le capitalisme et l'esclavage, tout ça était ensemble. Hein. Et donc on était plutôt sur des considérations économiques, donc on a transformé les êtres humains en des meubles, en des biens qui pouvaient être vendus, etc. Et l'Église qui intervenait à cette époque-là, au tout début de l'esclavage, venait en disant il faut baptiser quand même. Donc ils étaient des biens meubles, mais baptisés. Donc on était dans un entre-deux, là, sur la considération des esclaves, qui étaient un peu bizarres, mais ils s'arrangeaient avec ça. De temps en temps, on portait d'un côté, de temps en temps de l'autre. Mais c'était comme ça que c'est... Mais Grégoire a rompu avec cette façon de voir les choses, quand même. Hein. C'était, de ce côté-là, il était dans l'esprit des Lumières, on va dire. C'était un vrai républicain. Et il pensait que la religion pouvait jouer un rôle, mais quand même, il était engagé là-dedans.
Influencé par les Anglais, parce que le mouvement a été lancé, mais ça
Alors, il n'est pas financé par les Anglais, mais il a été lancé par les Anglais. C'est-à-dire que les Anglais, c'était les Quakers. Là aussi, c'est un mouvement religieux donc en Angleterre qui avait commencé à se battre contre l'idée de l'esclavage. Mais en fait, les deux prenaient ça par le biais de la traite. C'est-à-dire que la question pour eux, c'était on se bat contre la traite. L'esclavage de lui-même et progressivement va être aboli. Alors évidemment, ça pouvait aboutir à des contradictions importantes, hein, du genre on fait de l'élevage d'esclaves, quoi, puisque la traite, c'était notamment pour l'île de qui est devenue Haïti, qui s'appelait à l'époque Saint-Domingue. Eh bien, on emmenait des esclaves et ils étaient usés très vite. C'est-à-dire qu'il y avait sans arrêt besoin d'apport nouveau d'esclaves qui terminaient rarement leur vie, qui transmettaient rarement leur vie à d'autres et restaient vivants. Ils mouraient à la tâche, quoi, la plupart du temps. Donc, la traite, c'était considéré comme le point d'entrée qu'il fallait abolir d'abord. Et paradoxe de l'histoire, 1794, on abolit l'esclavage, mais on n'abolit pas la traite, par exemple. Hein. Ouais. Donc, les choses, dans l'histoire, souvent, il y a des choses comme ça qui se recoupent de manière un peu bizarre. Et on arrive donc à une révolte d'esclaves contre l'esclavage. Et ces esclaves, eux, pour eux, c'était l'esclavage. La question de la traite, pour les esclaves qui étaient à l'intérieur de Haïti, ne se posait pas directement, puisque l'esclavage, ils étaient libres. Donc pour eux, il n'y aurait plus de traite, puisqu'on ne pouvait plus importer des esclaves, l'esclavage étant aboli. Mais par contre, vu du côté occidental et français, on n'avait pas interdit la traite, donc ça voulait dire que les Français pouvaient participer à la traite dans les autres îles. Notamment. Hein. Donc le regard sur les Noirs, justement, n'était pas changé. On restait quand même avec cette idée. On les civilise. Encore ceux-là, ils sont peut-être pas trop mal. En plus, ils se sont révoltés, donc ils nous ont fait peur. Ils sont trop forts, donc on va abolir l'esclavage. Mais en général, on considère toujours les Noirs comme inférieurs aux Blancs. Voilà.
Oui, Jonas, veux-tu réagir, voir un peu, parce que Daniel a beaucoup circonscrit un peu à ce qui se passait, notamment en France, les rapports de force et autres, mais comment les choses se déroulaient à Saint-Domingue, puisque c'était l'île de Saint-Domingue, et tu as énoncé un concept qui est celui économique. Il faut rappeler que Saint-Domingue, c'était aussi la perle des Antilles, donc ce qui n'était pas
premier
pour rien.
Premier producteur au monde.
Je pense que c'est tout à fait normal, parce que moi, personnellement, je ne saurais pas dire autant de tout ce dont Daniel a parlé là, en ce qui concerne la vision de l'autre côté du problème, de la situation. Moi, personnellement, pour deux raisons, parce que je considère que nous avions résolu le problème à notre manière. Et ça me rappelle à un moment donné où quand il y avait Serge Romana qui participait qui donnait des conférences sur les abolitions, justement sur les abolitions. Et une fois, j'étais à la FNAC à Toulon, et chaque fois qu'il disait quelque chose, il se tournait vers moi et il me disait « ça ne vous concerne pas, vous, ça ne vous concerne pas, ça ne vous concerne pas », parce qu'on avait apporté une autre solution à ce problème. Nous, si on doit parler justement de lien entre ces deux abolitions de l'esclavage, oui, il y en a bien entendu, et je pense que Daniel l'a bien évoqué. D'une part, il faut penser aux Jacobins, les Jacobins noirs, il faut penser à l'abbé Rénal, tout ça. Ces gens-là qui étaient des abolitionnistes pour des raisons X ou des raisons Y. Et nous autres, ce que nous retenons surtout, nous retenons que les esclaves, une fois arrivés en terre de Saint-Domingue, même avant d'arriver, les esclaves se sont rébellés contre le système esclavagiste, avec toute forme de résistance. Et toute forme de résistance, et ce qui fait que quand on a évoqué la Déclaration universelle des droits de l'homme, un concept qui est presque que les jeunes maintenant ne veulent plus accepter, quand on dit que la révolution haïtienne est fille de la révolution française, les jeunes haïtiens d'aujourd'hui ne veulent plus accepter ça parce qu'ils disent que quand même ils ont commencé à résister avant même la Déclaration universelle des droits de l'homme. On a les macandales, on a toutes ces manières de résistance que les femmes ou les déportés, etc., même si des gens qui ne veulent pas qu'on appelle ça la déportation. La déportation aussi, la traître négrière. Donc les jeunes haïtiens ne veulent pas parler, ne veulent pas dire que la révolution haïtienne est fille de la révolution française. Mais il faut quand même voir aussi, il y a eu le contexte international où presque toute l'Europe était en guerre. L'Angleterre, la France et l'Espagne étaient en guerre. Et Haïti, en étant à ce moment-là la perle des Antilles, attisait bien de convoitises, et les chefs haïtiens pouvaient jouer là-dessus pour dire voilà, si je n'ai pas ce dont j'ai besoin, je peux me rallier les autres. Par exemple, dans l'histoire, je peux rallier un autre camp. L'histoire, l'une des actions les plus marquées de Toussaint Louverture, c'est ce qu'on appelle le revirement de Toussaint. Le revirement de Toussaint, Toussaint a commencé avec la Révolution, puis il s'est rallié aux Espagnols parce que les Espagnols avaient aboli l'esclavage. Et quand son tonax a aboli l'esclave en août 1793, Toussaint est revenu à la France parce que la France préconisait les mêmes valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Mais moi, ce que je voudrais dire par là, dans ce texte là, quand on parle de la logique de la domination, je me demande à quel point l'abolition de 1780, de 1848 n'est pas utilisée pour cacher justement la geste, la prouesse des esclaves de Saint-Domingue. De façon à ce qu'on ne continue pas à voir le bon côté du blanc, le blanc qui a du cœur, comparé à des esclaves qui ont dit liberté ou la mort, quoi, qui ont mis sur la balance la liberté contre leur vie. Et je me demande si on ne pouvait pas voir ça aussi dans cette logique de la, une sorte de que se perpétue une forme de domination qui fait qu'on peut aller même jusqu'à la rançon de l'indépendance qui va être imposée à Haïti de façon à ce que l'expérience haïtienne échoue absolument.
Peut-être que l'on ferait bien de rentrer, bon, tu as bien explicité un peu ce qui se passait, quelles étaient les forces en présence. Moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'on puisse revenir sur les faits, être factuel à Saint-Domingue. Quelle a été la progression dans les révoltes des esclaves? Comment les esclaves ont-ils entendu ou compris qu'il se passait quelque chose de différent en France? Qu'il y avait un changement radical? Quelle est l'information? Comment cela a-t-il circulé? Et comment cela a mis en ébullition un peu plus les masses populaires, on pourrait dire d'indigènes, d'Africains, hein, à Saint-Domingue, pour qu'ils puissent arriver à s'organiser au fur et à mesure, à être dans une dynamique insurrectionnelle et révolutionnaire?
Oui, bon, il y a des choses qui ont été écrites là-dessus, notamment, on en a parlé tout à l'heure, de James, les Jacobins noirs, où là, il y a un petit bouquin qui vient de sortir de Frédéric Thomas qui s'appelle « Haïti, notre dette », mais qui retranscrit toute cette histoire aussi. Hein. Il n'est pas que sur la dette, mais sur toute l'histoire de cette révolte. Alors, on a vu tout à l'heure dans les échanges que nous avons eus avec Jonas comment situer la Révolution française là-dedans, quoi. Je crois qu'il y a tout un contexte plus large que la Révolution française, vu du côté de Saint-Domingue. Tout à l'heure, on a parlé qu'il y avait des rivalités entre la France, l'Angleterre, l'Espagne. Et aussi la question, le roi ou la République, là aussi, ça a été des stratégies qui ont pu être différentes. C'est-à-dire que dans la révolte des esclaves, il se sentait inspiré par le roi au départ, hein. Donc il y a eu parce que il y avait une nouvelle qui apparaissait comme quoi il y avait un adoucissement de la situation des esclaves, un jour de congé de plus ou j'ai plus en tête précisément, mais c'était quelque chose de ce type-là. Donc au départ ils pouvaient être monarchistes quoi. Donc tout a convergé à un moment donné grâce plutôt par la tactique de Santonax, c'est-à-dire que lui était envoyé par la France pour aller mater la révolte d'esclaves. C'est comme ça que ça a eu lieu. C'est-à-dire, la révolte d'esclaves a lieu indépendamment de la Révolution. En plus, elle est mal vue par la Révolution française, oui, puisqu'on va, envoyer les commissaires pour mater cette révolte. Parce qu'à l'époque, la Révolution française considérait que le combat essentiel, c'était celui entre les Noirs et les Blancs libres, mais pas les esclaves. Il y avait même un argument qui considérait à dire qu'il fallait donner l'égalité des droits aux Noirs libres, ce qui est normalement inscrit dans la déclaration, mais pour qu'il soit un rempart contre les esclaves. C'était un des arguments, oui, y compris repris par Robespierre, dans le débat, tactique ou pas tactique, mais en tout cas, c'était plutôt cette question-là qui était posée. Donc, c'est sur place, par la révolte des esclaves, dans l'incapacité des commissaires de la République de pouvoir juguler cette révolte, puisqu'au départ, les premières déclarations, c'est « on n'abolira pas l'esclavage » pour rassurer les colons, parce que c'était ça la question. Et ensuite, ils se sont aperçus qu'ils ne pouvaient pas y arriver s'ils n'avaient pas l'appui des esclaves. Et donc, il y a eu ce renversement qui a amené aussi, comme tout à l'heure ça a été dit, Toussaint Louverture, qui était du côté des Espagnols, à rallier les Français parce qu'il y avait la libération des esclaves. C'était ça essentiellement. Vu de Saint-Domingue et vu du côté des esclaves, ils n'avaient rien à faire de savoir si c'était la République, la monarchie, les Anglais ou les Espagnols. L'essentiel, c'est qu'ils deviennent libres. Donc, il fallait trouver l'opportunité pour obtenir cette liberté. Donc, c'est comme ça que ça a été vu. Si on regarde les choses vues un peu d'en bas, c'est plutôt comme ça que ça s'est mené, quoi.
Mais ce que l'on peut observer, c'est qu'il y a toujours une façon aussi que l'on a utilisée, quand on parle de domination, de diviser pour mieux régner. Parce qu'au niveau des classes, tant à Saint-Domingue, il y a aussi la classe mulâtre. Comment cette classe aussi a-t-elle joué, aussi, et dans quelles catégories ont-ils été utilisés d'une façon ou d'une autre aussi à un moment donné?
C'est là que j'allais rebondir sur les mots de Daniel. C'est que quand la France déclare que tous les hommes naissent libres et égaux en droit, à Saint-Domingue, ça va répercuter avec une violence inouïe. Parce que Saint-Domingue, c'est une société, qui est divisée en castes. On a la grande pyramide où il y a le sommet, c'est les Blancs. Le sommet, les Blancs, les propriétaires terriens, les propriétaires d'esclaves. Au milieu, un petit peu, peut-être entre 10 à 30%, c'est les mulâtres ou bien les noirs libres, les propriétaires d'esclaves, les affranchis, on les appelait. Et puis après, on a la masse des noirs. La masse des noirs, dont chacun, la masse des nègres, on va le dire nègre carrément, chaque groupe va commencer par défendre ses propres intérêts. Et le spectre de l'abolition de l'esclavage, le spectre d'une égalité entre les deux classes qui sont au-dessous de la classe des Blancs et des propriétaires, a presque mis les propriétaires terriens dos à dos contre la métropole. Contre la métropole parce que à cette époque-là, je n'ai pas l'impression qu'il y avait le patriotisme, qu'il y avait, etc., etc. Les mecs étaient des propriétaires, des propriétaires terriens, des gens qui voulaient s'enrichir, et ils n'allaient pas hésiter à jurer sous la bannière d'une autre puissance européenne, justement, s'ils pouvaient conserver leurs privilèges. Ça, c'est le côté des Blancs. Les affranchis, eux, ils ont entendu que tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Il n'y a pas de raison qu'ils se considèrent comme des citoyens de seconde zone. Mais donc, les affranchis eux-mêmes voulaient retrouver les propriétaires terriens, les esclaves, mais en conservant les esclaves dans leur situation de loque humaine, etc., de biens meubles utilisables. Donc, c'est dans cette atmosphère-là, qu'on a connu les premières grandes Les premières manifestations, ça a été justement les manifestations des Noirs libres, avec deux meneurs qui ont été exécutés, Vincent Rouget et Jean-Baptiste Chavagne, exécutés. Après, c'est de là qu'il y a eu ils ont envoyé des représentants en France, justement, pour des députés, pour discuter de leur cas. Donc, avec ça, plus les conflits entre les puissances européennes, on fait que le commissaire qui est venu pour mettre de l'ordre, pas forcément pour mater la révolution des Noirs, parce qu'il y a eu plusieurs commissions civiles. À ce moment-là, quand Samson Tonax arrive en 1793, on est à deux ans du début de la révolution haïtienne, avec la cérémonie du bois caïman, etc., etc. Donc il a trouvé non seulement les classes qui se déchiraient et des puissances qui étaient sur le point d'intervenir. Et je pense qu'il y a eu même les Espagnols se sont accaparés d'une portion du nord du pays, les Anglais ont pris le sud, et là Santonax a distribué des armes aux esclaves la première fois. Et il vous dit: je vous donne ces armes, celui qui vous enlèvera ses fusils voudra vous rendre esclave. Ouais. Donc, c'est-à-dire que là, il a compris qu'il fallait vraiment s'arranger un peu avec un groupe pour essayer de conserver la colonie à la France.
Est-ce que, Daniel, on peut considérer que la convention, que les conventionnels ont accepté, forcé d'accepter l'abolition de l'esclavage face à tous ces bouleversements, toute cette agitation qu'il y avait à Saint-Domingue? Peut-être que, au niveau de la réflexion, c'était de dire: c'est une façon pour nous de mettre en mal, de pouvoir conserver Saint-Domingue et ce que représentait Saint-Domingue en termes économiques pour la France.
Je crois que cette question est venue un petit peu après. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est quand il y a eu donc Santonax sur place, donc accorde la liberté. Il n'en avait pas le droit, hein. Il n'avait pas la mission, il n'avait pas... On lui avait pas donné ce pouvoir. Donc il a même été ensuite en procès en France parce qu'il avait accordé la liberté aux Noirs avant que ce soit décidé par la Convention. Donc ça, c'est quand même un point important. Donc quand lui décide d'accorder cette liberté, eh bien à ce moment-là, il va y avoir des élections. Et il va y avoir des députés qui vont être envoyés de Saint-Domingue. Et dans ces députés, donc, il va y avoir les trois, c'est-à-dire l'esclave, l'affranchi et le colon. Il va y avoir des représentants de ces trois volets. Et c'est eux qui vont venir à Paris, et ils seront invités à la convention qui doit décider. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc il y a eu une espèce...
Le député, c'est Jean-Baptiste Bellé, c'est ça ?
Voilà, Jean-Baptiste Bellé, qui lui était né donc au Sénégal et qui avait été transporté à Saint-Domingue. Et donc quand ils arrivent, effectivement, ça crée une forme d'enthousiasme chez les montagnards, on peut dire. Et donc il va y avoir une espèce d'idée, je crois, que le monde est en train de changer et de basculer. Donc il y a un certain enthousiasme. Je crois qu'il n'y a quasiment pas de débat. Il y a une espèce d'élection qui se fait très vite à ce moment-là. Parce qu'auparavant, toutes les assemblées qui discutaient de ces problèmes-là discutaient entre les Noirs libres et les Blancs, quoi. Jamais les esclaves. Donc là, d'un coup, c'est apparu sur la scène. Et c'est ça qui a provoqué, effectivement, quand même la décision. Mais cette décision n'a pas été approfondie. Notamment, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est important de voir que la traite n'a pas été prise en compte. D'accord. Donc ça veut dire qu'effectivement, ces députés qui arrivaient de Saint-Domingue portaient la révolte des esclaves et portaient leur affranchissement. Et donc là, ils ont souscrit à quelque chose qui avait déjà eu lieu, en fait. Donc, et qui pouvait permettre à la France de continuer à rayonner, en tout cas sa partie républicaine, continuer à rayonner. Donc il y avait un peu ce pari que ça allait donc donner une place importante à la France et que c'était un acte de générosité et tout ça. Donc il y a eu quelque chose de ce type-là qui s'est passé à ce moment-là, et les colons étaient plutôt en difficulté à ce moment. Ils n'ont pas pu reprendre la main, quoi. Donc je crois que c'est comme ça. C'est après coup que les choses ensuite ont été retravaillées sur ces questions-là. Hein. Je veux dire, la question... parce que même Grégoire, à la fin de sa vie, quand il écrit son mémoire, il va dire: on a donné trop vite On a trop lâché sur l'esclavage trop vite, quoi. Et les uns et les autres vont dire la même chose et avec l'idée de colonisation derrière ça. Si on veut garder Saint-Domingue, c'est très bien d'avoir libéré les esclaves, mais si on veut le garder, il va falloir réfléchir sur comment, quelle économie on met en place, etc. Et ça, ça va aussi influencer quelque part les élites aussi de Saint-Domingue, hein. C'est-à-dire de se dire, est-ce qu'on garde la plantation, le système de plantation, c'est-à-dire premier producteur de sucre, si on veut garder ce rang, ça veut dire que les esclaves, s'ils sont libres, mais il faut qu'ils travaillent comme des esclaves. Hein. Donc c'était, ça a posé des problèmes très importants à ce moment-là à Saint-Domingue. Hein. C'était, ça n'a pas été approfondi. Donc je ne pense pas que c'était un calcul, le vote de la Convention était un calcul sur la suite. Ça a été directement parce que il y avait la paix à Saint-Domingue. Saint-Domingue restait aussi en France, donc ça ne créait pas de gros problèmes. Et en même temps, c'était l'idée que c'était un territoire français, donc tout le monde devait être libre.
Mais c'est une façon aussi, au niveau d'un mécanisme de domination, le préjugé de couleur qui a été mis en application concrètement à Saint-Domingue à ce moment-là, à travers ce que tu disais, que tu présentais, les différentes castes qu'il y avait. Une dernière caste, c'était les esclaves, les Africains qui étaient là. Après, il y a une classe, les Affranchis noirs, une autre caste, et ainsi de suite, et que l'on a joué là-dessus à partir de si tu es blanc, si tu es noir, si tu es affranchi, si tu n'es pas franchi, si tu es mulâtre. Est-ce que c'est une application concrète déjà de cette façon de pouvoir dire que l'on divise pour mieux utiliser aussi les uns contre les autres lorsque ça nous arrange?
Oui, c'est une autre question. C'est que là, c'est sur place, à Saint-Domingue. Mais si on reste sur l'idée de abolition de l'esclavage, décision de la Convention, les conventionnels n'avaient pas en tête cette question-là. Sûr. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas en train de construire quelque chose à travers ça. Ils étaient simplement... Ils acquittaient le fait que ça avait eu lieu. Mais ce qui se passait à Saint-Domingue, précisément, et tous ces problèmes que tu cites, je crois que les conventionnels ne les avaient pas en tête. Par contre, effectivement... La difficulté s'est trouvée ensuite sur Saint-Domingue même, puisque normalement, c'était l'unité territoriale. On parlait de République une et indivisible.
Donc ils arrivaient
à un truc, il n'y a pas d'esclavage et nulle part, il y a de l'esclavage. On a résolu nos contradictions dans lesquelles on s'empêtrait. Et voilà, c'est grâce au combat des esclaves. Mais bon. Et après, on verra ce qui se passe. Mais ce qui se passait, c'est que l'esclavage avait structuré la société quand même de Saint-Domingue de façon profonde. Et donc, avec ce qui est dit, hein, c'est-à-dire qu'il y avait toutes les strates de couleurs qu'il y avait entre les blancs et le nègre. Il y avait toutes les strates de couleurs. Il y avait des termes bizarres qui étaient utilisés, les carterons, les je ne sais pas quoi, selon combien il y avait de degrés de métissage entre blancs et noirs. Voilà. Donc ça, c'est resté. C'est-à-dire que la structure de la société elle-même, elle est restée présente de façon forte. Et la vision devant les difficultés qu'il pouvait y avoir, vue de France et vue de la part des Blancs, même républicains, restait quand même un problème qui traduisait eux sur la grille de lecture, qui était que les Noirs, il fallait les civiliser, que sinon ils n'allaient pas se débrouiller tout seuls. Donc c'est ça qui a amené aussi progressivement à l'intervention après de Bonaparte en 1802, qui a rétabli l'esclavage. C'est-à-dire qu'il était poussé à la fois par les colons, les intérêts économiques, mais il y avait aussi une vision des choses qui était toujours présente, qui était celle de l'infériorité aussi des Noirs, qui n'était pas résolu par le fait qu'on avait simplement aboli l'esclavage.
Au-delà de ça, moi, j'aimerais bien arriver à l'insurrection et à la déclaration de la Première République noire. Alors, quelle a été l'action qui a été menée, notamment par Toussaint Louverture ? Peut-être rappeler cela, parce que ça a été un fin stratège. Et s'il a eu le surnom de Louverture, ce n'est pas pour rien. Jonas, est-ce que tu peux en parler, rappeler de tels actes aussi de bravoure ?
Oui, je réfléchissais à ça, justement, quand j'entendais Daniel évoquer les problèmes... qui existaient, qui n'étaient pas résolus avec l'abolition de l'esclavage à Saint-Domingue. Il faut se mettre en tête que le groupe des esclaves représentait un groupe très hétérogène. Et presque le seul élément commun, le seul ligand qu'ils ont trouvé entre les entre les esclaves, c'est peut-être la spiritualité. La spiritualité, le vaudou, hein, j'ai pas même pas voulu l'appeler le vaudou, j'ai préféré parler de spiritualité. La spiritualité, parce que c'est des êtres humains qui ont été chassés, qui ont été détenus, qui ont souffert pour arriver en terre de Saint-Domingue, de tribus, d'ethnies différentes. Et tu parles, Daniel parlait des nuances de couleurs qui représentaient chaque groupe, mais après à Saint-Domingue, on a commencé à parler de créole et de bossal. Le créole, c'est les esclaves qui naissaient à Saint-Domingue, et les bossal, c'est celui qui était venu, ouais, qui était venu jusqu'à présent. Les sauvages, voilà, et jusqu'à présent bossal. Donc c'est pour dire justement, il y a même un Américain dont j'ai oublié le nom, qui avait même écrit toute une théorie là-dessus, pour dans la dynamique du diviser pour régner, en disant qu'il faut opposer. Il faut opposer les gens, celui qui ont le petit nez, le gros nez, les grosses lèvres, les
machins comme ça.
Exactement, il faut presque hiérarchiser tous ces gens-là de façon à ce qu'ils ne s'entendent jamais. Donc c'est-à-dire, quand ici en Europe, on disait qu'il fallait civiliser les esclaves, moi je disais qu'il fallait absolument les éduquer. Il fallait les éduquer, c'est-à-dire les réunir. Ils venaient avec des éducations complètement différentes en fonction de leurs origines, des valeurs complètement différentes. Et là, on va tous se réunir pour créer une entité ou ce qui serait la première République noire du monde. Donc, c'était un travail très, très fort. Et justement, celui qui avait le mieux compris, c'était Toussaint Louverture. Toussaint Louverture, lui, on connaît l'histoire de Toussaint Louverture, petit-fils de Gaou Guignon, roi des Aradas, etc., etc., qui savait lire et écrire, qui s'était fait appeler le Spartacus noir, etc. Il pensait avoir reçu une sorte de prophétie ou une obligation, une mission de libérer les Noirs. Et quand il s'est présenté justement après la cérémonie du Bois Caïman en 1791, il dit « Je suis Toussaint Louverture, peut-être mon nom est arrivé devant vous, je travaille à la liberté des Noirs ». Il a défini tout simplement ce qu'il voulait. Mais Toussaint Louverture, comme il savait lire, il savait écrire, il montait très bien à cheval, il connaissait les plantes, etc., etc. Il n'avait pas connu la dure réalité des esclaves. Des esclaves, lui, il possédait des esclaves aussi. Mais c'est quelqu'un qui avait un rapport particulier avec la France. Et il savait qu'il y avait des valeurs à récupérer, des valeurs à inculquer, des valeurs à utiliser dans cette société-là, peut-être pour faire de Saint-Domingue un vrai appendice de la France, et qui permettrait le rayonnement de la France. Parce que vous savez que par le fait que la France a perdu Haïti, etc., 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 il a dû vendre la Louisiane, tandis que le plan de Toussaint Louverture, c'était justement d'avoir une armée à portée de main utilisable justement pour continuer, pour avancer. Il croyait au projet expansionniste de Napoléon Bonaparte, et Napoléon Bonaparte probablement l'a très mal compris. Et toute l'activité, toute la force de Toussaint Louverture, c'était ça. C'était justement de mener le bateau justement vers la liberté des Noirs, mais en même temps rester lié à la France pour les valeurs et même pour le commerce, pour les échanges entre la France, l'Europe, tout ça. Toussaint Louverture y croyait beaucoup. Et même quand il a créé la première constitution, la constitution de 1801, et c'est une constitution qui faisait de Saint-Domingue un État associé, où il y aurait justement une répartition beaucoup plus équitable justement des richesses que produisaient les esclaves. C'était difficile de ne pas maintenir le régime de travail, parce que c'est ce régime-là qui produisait, pour produire le sucre, le cacao, le coton, l'indigo, le sisal, etc., etc. On aurait pu peut-être ménager un peu des horaires, tout ça, mais je ne sais pas si les esclaves étaient au courant qu'ils allaient participer, ils allaient avoir leur part dans la richesse, dans la distribution des richesses, de la richesse du pays. Toussaint Louverture a éliminé des opposants, il a même assassiné, il a même exécuté son neveu. Maurice Louverture, qui n'était pas d'accord avec lui. Et même quand Napoléon envoie l'expédition du général Leclerc, en Haïti, avec à son bord les mulâtres de Saint-Domingue, André Rigaud, Bourgelat, etc., qui étaient revenus, donc des gens qui étaient pour le rétablissement de l'esclavage, prôné par Napoléon Bonaparte, lui, il a continué à se comporter comme un général français, et il s'attendait à être traité avec le respect digne d'un général. Mais ça n'a pas été le cas parce que, justement, l'un des objectifs de Napoléon, c'était justement à éliminer Toussaint Louverture, que Alphonse de Lamartine appelait le premier des Noirs, quand Alphonse de Lamartine, donc, qui a beaucoup milité pour cette réparation, justement, quand il parlait de Toussaint Louverture, il disait quand Toussaint Louverture, le premier des Noirs, écrivait au premier des Blancs. Donc, du coup, Toussaint Louverture a été capturé, parce que on voulait mater la révolution haïtienne, et Toussaint Louverture avait donné l'ordre à ses généraux, dont Jean-Jacques Dessalines, d'obéir, parce que ce sont des sujets français, des généraux français. Et quand ils ont su que, justement, Napoléon Bonaparte, Leclerc avait la mission de rétablir l'esclavage, et là, ils se sont rentrés justement en rébellion, et ils vont mener cette bataille-là qui va conduire justement à la défaite de Vertières, la bataille de Vertières en novembre 1803, puis à la proclamation de la première République noire du monde. Mais ce que ça donne, c'est que nous avons une société en pleine qui avait besoin d'une mutation et qui n'a pas été réalisée parce que Toussaint Louverture qui était le cerveau n'était plus là pour diriger, pour mener encore la mission qu'il voulait réaliser.
J'ai deux questions du coup. La première question, c'est quand tu disais que du coup Napoléon Bonaparte n'avait pas compris à quel point dans une certaine dimension Toussaint Louverture pouvait être un allié à sa vision, à son projet.
Oui, c'est ça. Mais je pense que Napoléon n'a pas voulu l'accepter parce que Toussaint Louverture était noir, je crois.
Oui, voilà. Tout simplement.
Dans ses mémoires de Napoléon, il va reparler de Toussaint Louverture, oui, et il va dire qu'il s'est peut-être trompé, oui, à son
il
sujet.
Il a dit, de son propre aveu, ouais, il a dit que...
Ouais. Non. Mais il a dit aussi, c'était à lui d'aller là-bas. Hein. Il a envoyé Leclerc, c'était à lui d'y aller. Il l'a dit aussi.
Et quand tu disais du coup qu'il a tué des opposants, notamment son neveu Moïse,
oui,
c'était quoi les positions de ces opposants du coup ? Il y avait plus de séparatisme dans leurs idées ou plus de...
Beaucoup plus de séparatisme. Et aujourd'hui,
il y avait le partage des terres aussi qui était en question. Oui. C'est-à-dire que c'était plus la même économie. C'était les petits paysans qui se sont retrouvés avec Moïse à ce moment-là, qui se sont révoltés contre le système de Toussaint Louverture, okay, qui lui voulait garder les choses, mais la structure économique l'État, il a essayé de la faire fonctionner comme ça, avec un travail forcé, hein, notamment des Haïtiens.
Les Haïtiens sont en train de réfléchir beaucoup là-dessus ces derniers temps, justement. J'ai croisé un philosophe, justement, qui disait que lui, il n'est ni pro-Toussaint ni pro-Dessalines. Parce qu'en fait, il dit que ces deux-là ont profité des chefs de bande, de l'action des chefs de bande. C'est de vrais chefs de bande qui ont mené la guerre. Et je pense que dans ce contexte-là, c'est là que Toussaint a éliminé Moïse, parce que Moïse était un chef de bande aussi. Donc c'est dans une sorte de réécriture de l'histoire, les Haïtiens, les intellectuels haïtiens sont en train de réfléchir en disant que le travail était déjà fait, etc., etc. Parce que on a l'impression que c'est une armée indigène complètement désorganisée qui a mené le combat, mais c'était pas aussi désorganisé que ça. Dans chaque, je ne sais pas comment les appeler, les bataillons, il y avait des bandes qui travaillaient ensemble sous le contrôle de quelqu'un, etc. Voilà.
Eh bien, je vous propose de faire une pause musicale et puis Emmeline Michel dans un morceau qui s'intitule « Benio », en rappelant toutefois qu'il y a Victor Hugo, me semble-t-il qu'il avait écrit un ouvrage à 15 ans autour de l'image de Toussaint Louverture qui s'appelle « Berg Jorgal ». Je ne sais pas. Ainsi, ouais. Il y a, voilà. Donc, pause musicale sur 88.4. Merci, Zidi.
Galère sur 88.4, démo 4 paroles avec vous. Haïti, par son histoire héroïque, incarne de manière tragique les mécanismes d'un système de domination toujours à l'œuvre. Première république noire née d'une révolution victorieuse contre les troupes napoléoniennes, elle fut pourtant lourdement punie pour avoir brisé ses chaînes. La France, loin de reconnaître la grandeur de cet acte émancipateur, a préféré imposer à Haïti une dette colossale en guise de compensation. Non pas au peuple libéré, mais aux anciens colons dépossédés de leurs esclaves. Ce renversement moral, où l'on indemnise les oppresseurs plutôt que de saluer la victoire des opprimés, illustre à quel point les logiques coloniales ont perduré au-delà même de l'esclavage. Nous sommes donc à J-6 du 17 avril, une date douloureuse pour le peuple haïtien, mais aussi pour tous les peuples opprimés qui se reconnaissent dans l'histoire de la Première République noire.
Pourquoi le 17 avril est une date importante pour le peuple haïtien? Jonas ou Daniel, vous pouvez peut-être répondre, parce que le 17 avril n'est pas une date anodine comme cela, parce qu'il me semble que c'est en lien avec une fameuse ordonnance, n'est-ce pas,
qui désire... Moi, j'aime bien parler après Daniel.
C'est bien, alors, comme de la renfort.
Je me lance. 17 avril, ordonnance de Charles X. Alors, qu'est-ce que c'est cette ordonnance? Donc, évidemment, après la Révolution, après Napoléon, il y a eu la Restauration. Donc, il y a eu Louis XVIII, puis Charles X. Et pendant ce temps, la question de Saint-Domingue continuait toujours à travailler l'esprit de la France et de ceux qui avaient besoin de récupérer... leurs biens, hein, puisque suite à la révolution haïtienne, les propriétaires sont tous partis, souvent à la Jamaïque ou ailleurs, hein, d'ailleurs. Donc, il y avait un esprit de revanche qui existait depuis longtemps. Et donc, à un moment donné, Charles X, pour des considérations aussi de politique intérieure, avait besoin de montrer qu'il pouvait faire quelque chose. Donc, il est parti et il a envoyé une armée, une flotte plutôt, faire un blocus complet avec une ordonnance en main qui était donc, en gros, vous allez payer pour indemniser les colons, puisque les colons avaient fait le forcing pour demander justement une indemnisation. Et donc, ce 17 avril, c'est le moment donc, où il va y avoir l'imposition par la force donc, d'une rançon, qu'on peut appeler aujourd'hui une rançon, qui était, on acceptera qu'il y ait l'indépendance de Haïti à condition que vous versiez une rançon, sinon on va continuer le blocus et on va continuer à vous mettre en difficulté. Donc c'est comme ça que ça s'est passé et... À l'époque aussi, il y avait quand même l'appui aussi des autres, parce que comme la révolution de Saint-Domingue pouvait inciter les esclaves des îles autour aussi à se révolter, ben, il y avait cette idée aussi de montrer qu'on ne pouvait pas laisser l'histoire en l'état, c'est-à-dire dire ben, voilà, les esclaves peuvent se libérer par leur propre force, et donc ça donnait envie aux autres de le faire, donc il fallait montrer, il fallait donner aussi... un coup d'arrêt à tout ça, donc ça s'est fait sous une forme d'une rançon extrêmement importante qui a été signée par le président de l'époque qui s'appelait Boyer et qui avait déjà dans le passé dit bon, puisqu'il y avait des pressions, peut-être on peut s'entendre sur une façon de régler le problème en payant un peu, mais il ne s'attendait absolument pas à ce montant-là, qui est un montant qui a mis complètement à genoux cette première République noire et qui ensuite a pesé lourdement sur les années qui suivent.
Jonas, veux-tu réagir aussi?
Oui. Quand la révolution haïtienne a vraiment battu son plein, les Français propriétaires de terres et d'esclaves, justement, disaient tout le temps ou attendaient justement un retour de la force française pour mater la révolution et récupérer leurs biens. C'est ce discours-là qui avait justifié que Jean-Jacques Dessalines ordonna lui aussi le massacre des Français en épargnant ce qu'il considérait comme les Français utiles. La France est utile parce que tout le temps, on lui disait qu'ils vont revenir, ils vont revenir.
Et les Polonais.
Non, je dis les Français. Bon, les Polonais, ouais. Les Polonais,
Européens, ouais. Disons.
Non, c'était les Polonais.
Les Polonais.
Ils étaient opposés à ça. Ils étaient déserteurs, quoi.
Oui, mais ils étaient dans une localité qui s'appelle Fond-des-Blancs. Fond-des-Blancs, jusqu'à présent, quand vous y allez, vous trouvez des gens clairs de peau et avec des noms polonais. Ouais. Ils étaient à Fond-des-Blancs. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que l'histoire rapporte que même le général Henri Christophe, il avait à la citadelle La Ferrière une somme d'argent et d'or justement préposée à ça, en disant que il pensait que Haïti n'allait pas pouvoir résister à une flotte française qui viendrait pour rétablir l'esclavage. Il disait que s'il fallait payer, il paierait. L'histoire rapporte ça. Mais ce que l'histoire dit aussi, c'est que les deux nations étaient dans une situation compliquée. Tu as parlé de tout ce qu'il y a eu dans l'histoire de la France. C'est ce que rapporte Théodate dans le bouquin sur l'ordonnance de Macao, un truc comme ça. C'est le nom du général qui avait apporté Macao, l'ordonnance qui avait apporté l'ordonnance pour menacer Boyer. Donc les deux pays étaient en difficulté. Haïti était en difficulté parce que Haïti avait perdu le fondateur de l'indépendance qui a été assassiné, Jean-Jacques Dessalines qui a assassiné. Haïti a connu deux républiques, une république dans le sud avec Alexandre Pétion, une république dans le nord, une monarchie dans le nord avec le roi Henri Christophe. Le roi Henri Christophe, c'est à la mort de Henri Christophe. Alexandre Pétion occupa tout le pouvoir et Jean-Pierre Boyer a été le successeur d'Alexandre Pétion. Donc c'est-à-dire que Haïti a connu des guerres civiles, donc Haïti n'avait pas pu vraiment se lancer dans un développement comme il l'entendait. Donc avoir en plus cette épée de Damoclès, le retour des Français pour rétablir l'esclavage, donc ça portait justement à réfléchir, à savoir si on pouvait retrouver une entente avec la métropole. Il faut savoir aussi que Haïti n'est pas reconnu comme pays libre et indépendant. Haïti ne peut commercer avec personne. On ne peut pas faire du commerce, des échanges avec personne. Et comme l'a si bien dit Daniel, encore une fois, Haïti était le mauvais exemple. Les États-Unis, c'est un pays où l'esclavage bat son plein, et le ségrégationnisme, etc. Des colonies anglaises, et partout dans le monde, il y a des esclaves. Donc on ne pouvait pas se mettre à avoir des rapports cordiaux avec Haïti. Donc il fallait absolument Haïti pour avoir ce loisir de se présenter, de traiter comme peuple libre avec les autres nations. Malheureusement, Jean-Pierre Boyer a accepté de payer cette rançon, 150 millions
en francs or, et ce que
dit l'histoire aussi, c'est que comme c'est un pays qui était en grande difficulté, pour verser la première tranche, c'est les Français qui ont prêté de l'argent à Haïti, 30 millions pour les 30 premiers millions de francs. Et dans les caisses, avec les frais, etc., dans les caisses d'Haïti, il y a 10 millions qui sont rentrés seulement. C'est pour ça qu'on parle de la double dette. Mais si on se met à accumuler les obligations, cette dette-là, ça n'a pas été une double, on peut dire c'est une triple, c'est une quadruple, parce que toute l'économie du pays a été mobilisé justement pour le versement, pour payer cette dette-là, payer les intérêts qui étaient à 6% à l'époque. Une grande partie de la somme à payer correspondait aux intérêts et que justement, bien entendu, ça a dû hypothéquer tout le développement du pays. Aujourd'hui, quand les gens... J'ai une position très particulière, par rapport à la dette de l'indépendance. Ce que j'incrimine beaucoup à la France, ce n'est pas de nous avoir pris l'argent, mais c'est surtout de l'avoir caché. De ne pas vouloir, de ne pas en dire, de ne pas l'expliquer dans l'histoire, que les gens n'apprennent pas. Les gens ne sont pas au courant de ça. Je pense que ça, c'est le crime le plus grave qui a été causé à Haïti. Justement, si on avait l'argent, on aurait pu quand même faire des choses, mais le fait de le cacher, je pense, encore plus grave.
La somme, à peu près, on a dit, c'est 560 millions de dollars de valeur actuelle, c'est ça, à peu près? Voilà, pour faire une idée, quoi.
Il y a plusieurs façons, hein, il y a plusieurs façons. Quant à Aristide, lui, en 2002, avait dit que c'était 21 milliards d'euros, ça représentait. 21 milliards d'euros, ça représentait en 2002, quand il y avait Christophe Warnier avec lui, qui voulait absolument, qu'il avait posé cette question de la restitution.
Et la question que peuvent se poser certaines personnes, c'est est-ce qu'Haïti a été en capacité à pouvoir tout rembourser sur requête? Bon, a-t-il été en capacité à pouvoir le faire?
Ah ben non, Haïti n'avait pas les moyens de le faire, justement. C'est ça, c'est pour ça que ça a été un crime. Ça a été un crime, donc de 150 millions, c'est passé à 90 millions, mais Haïti a tout payé. Je crois que la dernière échéance a été payée en 1940, 45 ou 48, comme ça. Mais la preuve, c'est ça, c'est-à-dire tout ce qui se produisait en Haïti, etc. Et puis en plus... La France avait un traitement de faveur, justement, dans l'achat, dans le commerce avec Haïti. Avec Haïti, la France achetait les produits haïtiens avec des marges, des taxes qui étaient baissées, justement.
Et la France n'allait pas rester là, parce qu'en même temps, elle a créé la Banque nationale d'Haïti.
Oh là là, ça, c'est encore un drame. C'est encore un drame. Je pense que la création de cette banque a coûté 10 millions de francs à Haïti, et la banque a eu 3 millions de valeurs, 3 millions d'espèces. Tout le reste, c'était les frais, etc., etc.
Donc, oui, tu voulais intervenir concernant la problématique de la dette.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des intérêts qui ont dû être payés. Et c'est ça qui a fait traîner aussi, parce que comme ils ne pouvaient pas tout payer, ils se sont endettés pour rembourser ce que tu as dit tout à l'heure, Jonas. Hein, mais
les crédits revolving, quoi.
De façon répétée auprès des banques. Et les banques se sont enrichies à travers cette dette, quoi. Ça a été un truc interminable, en fait, qui a duré longtemps. Là-dedans, il y a la fameuse Banque nationale d'Haïti qui était prévue pour ça, pour aider à finir la dette, mais qui, en fait, n'a fait que l'aggraver à nouveau. Et là-dedans, une simple remarque que je voulais faire, c'est qu'il y a des Marseillais là-dedans, dans la création de la Banque nationale d'Haïti, Rostand. Voilà.
Les banquiers, Edmond de son prénom.
C'est pas Edmond.
C'est la famille.
C'est la même famille, mais c'est le banquier Jean Rostand.
Qui était naturaliste aussi, non, c'est pas lui qui écrivait.
Non, Jean Rostand, c'est plus tard.
Ah ouais.
Non, à cette époque-là, c'était un banquier. Alors, je sais pas s'il était dans la famille, Jean Rostand, naturaliste, je sais pas. Ouais. Mais donc, on va avoir là, à ce moment-là, des montages financiers qui ont lieu. Dedans, il y a tout un dossier qui a été fait par le New York Times et qui est consultable en ligne. New York Times, vous regardez ça, dette d'Haïti, et c'est très bien fait. C'est très bien fait, et notamment il y a une mise en cause de la banque CIC, qui est aujourd'hui une filiale du Crédit Mutuel, qui était dans ce montage, notamment financier, pour récupérer l'argent. C'est pour ça qu'on parle des fois de double dette. Ouais. On parle des fois de double dette, c'est-à-dire la dette imposée par l'ordonnance et ensuite la dette qui était la banque, rembourser les crédits aux banques et avec les intérêts qui allaient dedans. C'est ça qui a fait
le troisième. Le troisième crime, c'est le fait que, ce que disait Jonas, c'est que tout ce qui était produit à Haïti par la force des esclaves était exporté en France à des prix tout à fait concurrentiels.
Alors, dans l'ordonnance, il y avait aussi ça. C'est-à-dire qu'il fallait qu'ils acceptent les marchandises françaises sans droit de douane. C'était en plus. Hein,
oui,
ça.
En plus
là, on trouve un langage qui ressemble à celui d'un personnage aujourd'hui.
Oui.
Ce qu'on entend à la télé assez souvent, mais c'était un peu la même façon de faire. C'est-à-dire, on fait un blocus, on vous impose une dette, et en plus, vous allez prendre nos marchandises sans droit de douane. Bon, voilà, donc on avait vraiment un rapport de force, quoi.
Ouais. Contrairement à certains pays, on n'a jamais effacé la dette.
Jamais. Non, elle a été réduite, comme il l'a dit, c'est-à-dire elle est passée de 150
à 90.
À 90 millions, mais de francs or, c'était à l'époque. Après, il faut traduire.
Mais actuellement, d'après ce que je lis, c'est le CIC qui contrôle le gouvernement. Il ne peut ni déposer ni retirer de fonds sans verser de commission. par le CIC.
Actuellement, je ne sais pas si le CIC est toujours présent. Là. Non, je parle du moment du démontage financier pour payer la dette. Donc normalement, il n'y est plus dedans, mais je ne sais pas s'il y a encore quelque chose.
Le CIC, c'est actuel, le CIC. Il ne précise pas, le CIC contrôle le trésor public d'Haïti. Le gouvernement ne peut ni déposer ni retirer des fonds sans verser de la
Non, mais c'était à l'époque. Dans les années...
Oui, ça, 1880.
Voilà, c'est ça.
Le CIC existe déjà à cette époque-là.
Oui. Maintenant, il a été une filiale du Crédit Mutuel qui, lui, est arrivé après, mais après, il a bouffé le...
Ce qui me semble être important, c'est de signaler que depuis bien longtemps, les différents dirigeants ont demandé à ceux qui puissent avoir une récupération de ces dettes pour leur permettre de favoriser leur développement, y compris Aristide qui a fait cette demande et bien d'autres. Là, aujourd'hui, nous sommes le 17 avril, nous avons droit à quoi ? 17 avril 2025. Apparemment, il y aurait un certain président qui devrait dire deux mots à ce sujet, non ?
On a oublié les Américains. Je voulais juste rajouter un petit truc avant de passer à ce point-là. Les Américains qui sont quand même intervenus directement dans les années 1915, et ils ont racheté cette dette et ils l'ont fait repayer à Haïti. Donc il y a eu quand même une période de domination américaine du même genre que Charles X, sauf que là, ils sont arrivés sur le territoire directement et ils ont contrôlé toute l'économie haïtienne dans ces années-là. Donc les Américains ont succédé aux Français quand même. Hein, c'est pas eux qui ont eu l'initiative de la dette, mais ils ont quand même profité largement de la situation. Voilà.
Heureusement, depuis, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts, depuis Aristide. Les mauvaises langues disent que la demande de la restitution, de la rançon de l'indépendance a coûté à Aristide justement sa présidence en 2004. Quand Dominique de Villepin avait dit que Aristide s'était désolidarisé, c'est pas désolidarisé, il avait dit un autre mot, s'est désengagé de toute couverture démocratique, etc. Il fallait pas l'aider parce que les Américains voulaient l'aider pour qu'il reste au pouvoir, il fallait qu'il dégage. Mais après, on dit justement parce que c'est Aristide qui a été un des premiers présidents à exiger la restitution de la dette de l'indépendance. Depuis, on en parle de plus en plus ces derniers temps, je crois qu'il y a deux ou trois jours, il y a eu des conférences au niveau du Sénat de la République en France, justement où il parle de la dette avec Jean-Marc Ayrault qui demande, c'est ça ?
Jean-Marc Ayrault, qui est le président
j'ai beaucoup de doutes, mais bon, ça on verra un petit peu quand Sarkozy va parler. Macron, il est allé en Haïti lui aussi, lapsus révélateur. Et quand Macron va parler, mais il y a un truc qui me choque un peu parce que j'ai vu une résolution sortir de cette rencontre qu'il y a eu cette semaine à l'Assemblée nationale et on commence à parler de rapports apaisés.
Ouais, bon. C'est un langage diplomatique.
Voilà, simplement. De rapports apaisés.
J'avais lu un article quelques années de ça sur la dette que les Américains, que Haïti demandait que les Américains remboursent Haïti. Mm-hmm. Et les Américains donnaient comme réponse que cette dette a été remboursée en aide.
Oui, mais je pense que Jacques Chirac avait dit la même chose aussi. Voilà. Ouais. Jacques Chirac avait dit la même chose. Et là, moi, quand on parle de relations, de rapports apaisés, je ne pense pas que ça soit vraiment. C'est pas percutant. C'est pas percutant du tout.
C'est le discours du plus.
Voilà, c'est pas percutant du tout. Donc je m'attends à ce que la montagne accouche d'une souris le 17 avril. Quel levier il faudra tirer pour dire vraiment il faut aider Haïti. Il faut aider Haïti. Si aujourd'hui on est d'accord qu'il faut sauver les libertés, il faut préserver les libertés, il faut se battre pour les libertés. On ne peut pas laisser périr Haïti, justement.
Tout à fait. Donc, nous, je n'ai pas de réponse par rapport à ce que vous serez susceptible de dire, sauf toucher, botter en touche, pourrions-nous dire, par Macron le 17 avril 2025, ne pas donner de réponse comme bien d'autres. Et moi, j'ai une question, parce qu'à l'heure tourne, que je me souhaiterais poser. Nous n'avons pas le temps d'aborder le fameux décret de Victor Schœlcher établir la différence entre le 27 avril.
On va faire une autre émission.
Voilà, 27 avril 1848, parce que entre certaines choses, tu parlais de la première abolition où effectivement était exclue l'idée de la traite négrière d'Andon et que c'était l'abolition de l'esclavage. Là, nous constaterons qu'à travers ce décret Victor Schœlcher, il y a différentes choses. C'est l'indemnisation des propriétaires d'esclaves. Est-ce que la question que je me posais, c'était à savoir, est-ce que c'est l'ordonnance 10 de Charles X qui a induit un peu cette idée de donner une compensation aux propriétaires d'esclaves, de les indemniser plus exactement aussi. Puis après, on voit qu'au fur et à mesure, à la période de toutes ces abolitions d'esclavage dans les différents pays européens, que ce soit au Royaume-Uni, que ce soit dans les colonies anglaises et portugaises, voire aux Pays-Bas, il y a eu aussi des indemnisations des colons d'esclaves. Ça, c'est une des propriétaires d'esclaves. Deuxième question, c'est en lien aussi avec le problème foncier. Problème foncier d'un premier abolition de l'esclavage, et l'indemnisation n'était pas du tout compris par les abordés. Dans le décret Victor Schœlcher, il y a les deux qui sont abordés, à savoir indemnisation des propriétaires d'esclaves d'une part, et que les propriétaires d'esclaves pouvaient toujours conserver les terrains. C'est pour cela que l'on se retrouve dans des situations inextricables en Martinique ou en Guadeloupe concernant la problématique du foncier, quoi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que c'est cette ordonnance qui a lancé le mouvement et que cela a fait tache d'huile? Est-ce qu'on pourrait poser ça comme hypothèse?
Je pense que c'est indépendant, pour moi, enfin, tel que je le vois, parce que ce problème-là, c'est vraiment la révolte des esclaves haïtiens. C'est vraiment la révolte des esclaves haïtiens qui a, je veux dire, bousculé la donne. Sinon, le chemin qui était pris, c'était celui de l'indemnisation, en fait. C'est-à-dire, on abolit la traite, ensuite on civilise, mais en même temps, on tient compte du fait qu'il y a un titre de propriété qui existe, donc il faut négocier. Je crois que, je veux dire, du point de vue de la société des Amis des Noirs, c'était déjà dans la tête, et ensuite c'est revenu à nouveau. Il n'y a pas eu une rupture parce que on considérait qu'il y avait un problème économique et qu'il fallait gérer avec les gens qui étaient au pouvoir, donc il fallait les indemniser. Bon, je crois que c'est... Alors effectivement, ce qui s'est passé avec Charles X, peut-être c'est resté aussi comme une idée. Mais là, c'est différent. Avec Charles X, c'était par la force.
Oui.
Parce qu'ils avaient en face des gens qui s'étaient libérés eux-mêmes, quoi. C'est ça qui est différent. Tandis que là, en 1948, on est devant une situation un peu plus complexe, où déjà l'abolition a eu lieu en Angleterre. Il y avait eu la lutte contre la traite par les Anglais. Il y a eu d'autres pays qui avaient déjà commencé à abolir. On est dans un mouvement qui était un peu irréversible.
Mais un mouvement qui était toujours inscrit dans ce système de domination totale.
Voilà, qui était un système de domination et aussi des calculs économiques qui viennent.
Oui,
c'est-à-dire comment on va arriver à gérer alors qu'il n'y a plus d'esclaves. Donc il y avait ce problème aussi de pouvoir mettre dans la balance le fait qu'en indemnisant, on empêchait un peu les conflits de l'autre côté, quoi. Et c'était l'État qui prenait en charge directement là. Ça n'a pas été quand même comme l'ordonnance de Charles X où on a fait payer directement ceux qui se sont libérés. C'est quand même aussi... par nature, c'est aussi différent.
Oui, c'est différent dans la mesure, effectivement. Haïti, cela n'a pas été quelque chose d'octroyé. Ça a été à l'issue d'une guerre, d'une révolution. C'est comme pour la guerre d'Algérie, par exemple. Donc, par contre, dans les autres pays, que ce soit Martinique ou Guadeloupe, même si nous ouvrons une parenthèse, parce qu'en Martinique, le 22 mai 1848, c'est important pour les Martiniquais,
oui,
parce qu'ils ont anticipé. Donc, nous en parlerons le mois prochain. Pas vrai, Gary, je compte sur toi, bien sûr.
Mais du coup, la logique, elle est différente, mais aussi parce que du coup, les colons martiniquais et guadeloupéens ont estimé que c'était l'État qui était responsable du préjudice qu'ils étaient en train de subir en abolissant au final. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a cette
notion. Il y a l'idée qu'il y avait une décision politique de l'État et que c'était donc à eux d'assumer. C'était une argumentation, disons. Je pense que le consensus, il est plus sur le modèle économique, à mon avis, sur le fait qu'on arrive à une autre solution que l'esclavage pour maintenir quelque part la productivité.
C'était dit dans les écrits.
Oui. Donc, ce qui peut expliquer beaucoup de choses, je pense, en fonction de la manière dont les libertés s'acquièrent, soit c'est par la lutte, soit pour être autonome, pour être indépendant, soit effectivement quand cela est octroyé, on n'a qu'à regarder les pays africains au moment des mouvements d'indépendance aussi, c'était un peu la même chose. On peut considérer que ce sont des pays qui sont indépendants, mais sont-ils réellement souverains aussi chez eux jusqu'à présent? Bon, ça c'est encore un autre débat, me semble-t-il. Donc il faut que... Nous n'allons pas parler de Schœlcher, parce que Schœlcher, c'est une figure qui est extrêmement controversée, surtout par les autres générations, telles que notre ami Gary ici. Césaire avait un avis, parce qu'appartenant à une certaine époque, en ayant l'abolition de l'esclavage était un peu récente, parce que sa grand-mère avait connu, lui, les deux, 1919, l'abolition était quelque chose de tout à fait récent. Donc il avait une certaine vision. Il avait fait un discours là-dessus, très élogieux concernant la position de Schœlcher, la prise de position de Schœlcher dans l'abolition de l'esclavage. Oui, mais par contre, il y a les nouvelles générations qui ont détruit, qui ont déboulonné en Martinique. Hein, tu peux en dire deux mots. Les statues de Victor Schœlcher, par exemple, c'est une
alors,
forme
c'est
de
vrai
controverse.
Qu'il y a eu, alors, parce que tu me regardes à chaque fois que tu parles de cette génération-là, moi j'avoue que je ne suis pas forcément... totalement en accord avec cette action, même si j'estime que je la respecte. Enfin, je suis. Mais en gros, ce qui était, en fait, c'est pas la figure de Schœlcher, je pense, qui était renversée en renversant sa statue. C'était ce qui était voulu, c'était un renversement de discours. Et moi, je sais pas si je me retrouve plus dans ces actions-là, qui sont très récentes et qui sont plus le fait de personnes de ma génération, ou dans des actions qui ont été menées il y a quelques décennies, par exemple, quand il y a une statue qui est assez connue. Oui, il y a Joséphine, mais j'allais parler de ça
de
après. Celle de Victor Schœlcher qui monte le chemin. Il y a une statue comme ça à Fort-de-France, c'est devant l'ancien palais de justice. Une statue de Victor Schœlcher qui monte le chemin à une petite fille noire. Et les...
C'est les meurtres paternalistes qui a été
remise
en question.
En question. Est-ce que les gens ont fait, ils n'ont pas déboulonné cette statue, ils lui ont coupé la main. La main qui monte le chemin, ils l'ont coupée. Et ça, pour moi, c'est... Déjà, je trouve que la réponse poétique, poétiquement, je la trouve beaucoup plus forte et le message beaucoup plus clair et précis. Tout comme le fait de couper la statue, la tête de la statue de Joséphine et de rafraîchir la peinture rouge régulièrement pour symboliser le sang. Pour moi, ça dit plus de choses et parce qu'au final, pour moi, ça dit plus de choses. C'est des actions qui disent plus de choses. Maintenant, n'étant pas là-bas, n'étant pas... Si les gens ont décidé qu'il fallait détruire la statue de Schœlcher, c'est une réponse comme une autre et c'est une réponse comme une autre il y a une image que j'aime beaucoup, c'est celle de en fait faut pas se comporter comme l'imbécile qui regarde le doigt quand on lui montre la lune, c'est-à-dire qu'en fait les gens ne disent pas que Schœlcher n'a rien fait, les gens imposent juste un renversement de discours et un renversement narratif en fait tout simplement.
Oui, tout à fait. Remettre un peu, remettre au sujet aussi les insurrections et...
Effectivement, c'est dur d'avoir de la nuance quand le discours étatique, quand le discours du pouvoir n'a rien de nuancé. Le discours du coup qu'on va opposer au pouvoir ne peut pas être nuancé quand le discours du pouvoir n'est pas nuancé du tout.
Moi, je suis une génération légèrement plus ancienne.
Ouais.
On va dire ça comme ça. Non, moi, on a découvert Schœlcher, c'était l'abolitionniste. Et après, ce que je pense, c'est qu'on a mis Schœlcher en avant pour masquer le reste. Pour moi, c'est pas Schœlcher.
C'est une certaine image de Schœlcher.
Oui, une certaine image. Mais je veux dire, c'est pas Schœlcher par lui-même, parce qu'il avait ses idées, pas ses idées pas mauvaises. Mais il y a plein d'autres personnes qui sont importantes pour l'abolitionner, qu'on a passé sur silence, volontairement, je pense, pour donner une belle image à Schœlcher.
C'est ce que disait Daniel au sujet de la première abolition de l'esclavage qui est mise sous le boisseau, pourrions-nous dire, quasiment, et que l'on pointait que 1848, il y avait Victor Schœlcher qui est mis en avant.
Et puis c'est comme beaucoup de figures, c'est une certaine image de Schœlcher qu'on met en avant, c'est celle du républicain, c'est celle qui existait, ce qu'il était. Mais on oublie aussi que Schœlcher, avant même l'abolition, avait parlé de la question des structures qui maintiennent le système en place et que l'abolition ne réglerait pas la question des structures de la société. On ne dit pas que ça, il avait écrit dessus. Enfin, figures, on met toujours en avant ce qui arrange au final.
Voilà, et puis il était là à l'aboutissement, c'est-à-dire à la signature. On ne parle jamais du travail qui a été commis en avant. Et par exemple, nous en France, ici, on a ce problème, c'est l'histoire du TGV. Le TGV, donc c'est Mitterrand qui a conduit le premier TGV, qui l'a mené à la gare, c'est sous l'air Mitterrand. Mais c'est quand même Pompidou qui a décidé de faire le TGV. Donc voilà, donc c'est au moment de la signature, c'est au moment de la sortie de l'acte que on récolte le bon endroit.
Pour moi, je cherche une tête de gondole. C'est une tête de gondole, voilà.
Donc nous reparlerons un peu de tout ça parce que vous voyez que cela crée quelques discussions, quelques interventions. Moi, ce que je souhaiterais, avant de conclure, c'est que l'on puisse parler des initiatives qu'un collectif d'associations et de personnes, et y compris avec la librairie Transit, que nous menons depuis quelques mois maintenant, depuis l'année dernière 2024, n'est-ce pas, et que nous continuons. Le thème de ce que nous avons mis en place, c'est briser le silence sur Haïti, et notre préoccupation, c'est effectivement concernant la date de l'indépendance et comment mettre fin aux roquettes françaises sur Haïti, en quelque sorte. Alors, est-ce que vous pouvez en dire deux mots, ne serait-ce que rappeler qu'il y a une première, deuxième, troisième, et là, il me semble que ça sera la quatrième édition, non ?
Troisième
édition. Jonas.
Après Daniel.
Daniel pour Transit Librairie, alors.
Non, je commence par la dernière initiative, celle qu'il faut retenir, parce que le reste, si je remonte en arrière, je vais peut-être oublier des choses. La dette, donc l'ordonnance, Charles dit, c'est donc 1825, donc on arrive au 200e anniversaire. C'est
tout ça,
c'est un peu l'occasion, souvent on a l'habitude de faire les choses comme ça, hein, c'est un peu l'occasion de revenir là-dessus, c'est ce qu'on a fait déjà aujourd'hui, mais on va y revenir lors d'initiatives publiques, hein, notamment il y aura la présentation d'un film de Michel Reynette, hein, qui s'appelle « Haïti, la rançon de la liberté », qui sera présenté donc le samedi 10 mai, à 14h, donc au cinéma de l'Alhambra, hein, samedi 10 mai, donc 14h au cinéma de l'Alhambra, et qui sera l'occasion aussi d'une rencontre, d'un débat, de discussion, de table ronde autour de ce qu'on vient de citer et autour de la situation d'Haïti aujourd'hui. Parce que c'est une des composantes de la situation d'Haïti aujourd'hui, cette rançon qui a été payée par le peuple haïtien. Bon. Donc on aura un débat là-dessus, le film, le débat, etc.
Jonas, peux-tu présenter les deux invités ? Il y a Michel Reynette, qui est à l'origine de ce documentaire, de ce film documentaire.
Oui, et les deux autres invités, c'est le politiste ou politologue Jacques Nézy, que nous avions eu avec nous lors de notre deuxième activité. Il était venu parler justement de la rançon de l'indépendance et aussi présenter un bouquin qui s'appelle
Haïti,
la fabrique d'une communauté de semblables. Un très bel événement qui avait attiré pas une grande foule, mais des gens vraiment qui réfléchissaient, qui ont aimé, qui ont compris vraiment la situation du pays et tout ce qu'on les pistes pour s'engager pour essayer de sortir ce pays de conserver la mémoire et conserver l'histoire de ce pays qui est une des histoires les plus peut-être je dirais pittoresques peut-être je sais pas si c'est le vrai mot. Et l'autre c'est un avocat, c'est le docteur Éric Sauré, écrivain,
politologue
et dramaturge, très très fin connaisseur de Jean Metellus. En discutant avec lui, il réfléchissait justement sur le côté juridique qu'impose une demande ou de la restitution, parce qu'il dit si la demande n'est pas faite selon la loi, cette demande sera rejetée. Et donc je pense que son apport sera très important parce que je pense que la lutte ne va pas s'arrêter là. Le 17 avril, je ne pense pas que Emmanuel Macron va dire on va rembourser les 21 milliards, donc il va falloir qu'on continue. Et je pense qu'après, on aura encore d'autres personnes qui viendront parce que l'écho, les voix qui s'élèvent pour la restitution de cette rançon, les voix seront plus nombreuses et plus fortes et on aura le temps d'agir encore.
On a eu plusieurs déclarations, notamment la Ligue des droits de l'homme, à ce sujet, diverses associations qui sont en train de prendre la parole à ce sujet pour que ça vienne sur la place publique, compte tenu de la situation aujourd'hui d'Haïti aussi.
Oui, et cette problématique concerne aussi le continent africain, ne l'oublions pas, parce que la traite, principalement, c'est celle-ci, ce sont nos aïeux qui ont été déportés. Donc aussi, il y a cette ouverture et cette demande de réparation qui est faite aussi, formulée par certains pays africains aussi, dans cette idée-là, de dire, voilà, vous avez pris nos enfants, vous les avez déportés, vous les avez esclavagisés, qu'est-ce qu'en retour avons-nous aussi ? Même si le postulat de base, c'est de dire que la traite négrière a enfanté la colonisation et que le code noir a engendré en quelque sorte aussi le code de l'indigénat. Donc il y a une forme de filiation dans tout cela. Et ce sont des systèmes de domination qui n'ont fait que se perpétuer jusqu'à aujourd'hui. Donc, alors, nous pouvons donner rendez-vous déjà au samedi 10. Ça se déroule à quelle heure ?
14h.
14h à l'Alhambra.
Haï, pays mêlé, pays debout, c'est l'acte 3. Alors, Haïti, la rançon de la liberté. Voilà, le lieu, c'est quel lieu, Gary ? C'est à quel endroit cela se déroule ? À l'Alhambra qui se trouve de rue du cinéma, donc il y a ces possibilités d'y accéder. Donc vous êtes attendus, fort nombreux, d'accord, pour écouter et nous encourager à poursuivre cette action.
Et venir discuter.
Et venir discuter, échanger. Voilà, merci beaucoup. Sidi, je te remercie. Le morceau que nous allons écouter, Gary, lequel que tu choisis, parce que entre les choix que Gary, d'une autre génération, fait, les miennes, peut-être ne se rejoignent, peut-être pas, mais sauf dans l'idée, quoi. Je n'ai que la musique.
Cobaye de Taiji.
Ah voilà, merci beaucoup. Merci Daniel, merci Jonas, merci Jeannot, merci à toute
Jean-Marc.
La bande.
Il ne faut pas essentialiser notre âge, on peut faire attention à ça.
Voilà, bon, mais la fois prochaine, nous embrassons aussi notre ami Jojo qui doit nous écouter. D'accord. Et nous ne l'oublions pas. Allez, plus fausse.
DJ Tutus, bad boy.
Mikado.
Bad son, garçon. Sauf qui ça? On pas mêlé, puis personne, et puis personne. On ramène des filles en tout le monde. On pas mêlé, puis personne, et puis personne. On ramène des filles en tout le monde. Dis-le bien. Quoi? Yo ni sais qu'elle. Combien beau cabachel, qu'on s'y t'aille qu'elle. Mal fini, mal fait la vieille. Bayo est trop préfacé, puis préquel. Quoi? Yo ni sais qu'elle. Combien beau cabachel, qu'on s'y t'aille qu'elle. Mal fini, mal fait la vieille. Bayo est trop préfacé, puis préquel. Mais qui est-il là? Que fait-il là? Qu'a fait j'ai le bat, mon déchet à paix là. Mon daïo capron, yo allé en feu là. Mauvais jazz, mauvais temps, mauvais délire. Mais c'est yoga que yo la famille, tu es fou l'ami. Yo allé, oui, sans combien la mine, nous allé la mine. Si tu vois un signe en coin, tu sais qui te la mise. Ici y'a pas de beau qui a fait la baisse. Kacha, coquel, yo ni sais quel. Combien beau cabachel, qu'on s'y t'aille quel. Mal fini, mal fait la vieille. Bayo est trop préfacé, puis préquel. Coquel.
Juste un oubli de taille, c'est de vous informer qu'il y a le film concernant Fanon qui se déroule le mercredi 23 avril à 16h au MUCEM. Donc vous pouvez interpeller, voire on peut vous mettre en lien avec le MUCEM pour pouvoir faire voir ce film de Fanon. Mais c'est Abdennour Zazan qui a fait ce film et ce n'est pas celui, l'autre que nous avons vu aussi. Mais plus nous parlons de l'actualité de Fanon, mieux vaut, n'est-ce pas Daniel, tu es en accord avec moi.
Sinon, il y a un autre ouvrage, un autre film aussi, qui concerne un peu aussi les Antillais, qui s'appelle Zion. C'est plus de la génération. Je n'ai rien de contre Gary, mais c'est Zion, c'est plus l'époque, ton époque, plus que celle de la nôtre. Donc, c'est un film à voir. Ça renvoie un peu à Negmaron aussi, et à cette idée-là d'un esprit. Voilà, donc il se passe au cinéma Pâté de la Joliette. Voilà. Allez, bien le bonsoir. Tchébéret, pas molli. Hein. Bon, allez, un autre soleil.
Combien beau cabatiel, quantité qu'elle fait. Mal fini, mal fait la vieille. Bayo est trop préfacé, puis préquel. Coquel, Yonis et qu'elle. Combien beau cabatiel, quantité qu'elle. Mal fini, mal fait la vieille. Bayo est trop préfacé, puis préquel. Mais qui est-il là? Que veut-il là? Qu'a fait j'ai le bâton des chiens à pire. On a eu capon, yo a l'œil en feu là. Mauvais jazz, mauvais temps, mauvais délire. Lui c'est Yora Cuyo, la famille, tu es fou l'ami. Nous on l'air, ils sont tombés la mine, nous on l'air la mine. Si tu vois un signe en coin, tu sais qui te la mise. Ici y'a pas n'importe qui qu'a fait la baisse.